Inès, bonjour.
Merci, bonjour Claire, merci. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'apogée de la Grèce ancienne, il y a 2500 ans, le siècle de Périclès. La constitution qui nous régit n'a rien à envier aux autres peuples. Elle leur sert de modèle, elle a reçu le nom de démocratie. Périclès, 5e siècle avant Jésus-Christ. D'histoire. Presque tout ce que nous devons à la Grèce vient de ce moment extraordinaire de l'histoire où en moins d'un siècle on pouvait croiser au pied de l'Acropole tout ce que la philosophie, l'art, le théâtre, l'architecture, la science et la démocratie pouvaient alors donner de meilleur. Socrate et Platon, Échille, Sophocle, Euripide, Aristophane, Phidias, et les premiers historiens, Hérodote et Thucydide. Jamais sur un territoire à peine plus grand qu'un département français, on a pu voir en si peu de temps autant de talents rassemblés en un seul lieu, Athènes, et autour d'un homme qui a donné son nom à la période la plus brillante de l'histoire de la Grèce ancienne, le siècle de Périclès. Il avait commencé avec la chute du dernier tyran chassé d'Athènes en 510 avant Jésus-Christ.
Ce jour est un jour de fête pour Athènes. Aucun de nous ne peut oublier que c'est à cette date que le peuple athénien, en décrétant il y a une année l'exil du tyran Hippias, a repoussé le péril d'un régime dictatorial.
La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Et si l'on vient nous attaquer, chaque citoyen doit se battre comme un soldat.
Hélène Montardre, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit chez Milan Jeunesse un livre sur la Grèce ancienne dont l'âge d'or, la période la plus connue, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on appelait le siècle de Périclès, celui des plus grands philosophes, celui du Parthénon, mais aussi, et c'est sans doute peut-être le plus bel héritage que nous ait légué la Grèce, ça a été le siècle de la démocratie. Cela dit, la démocratie, c'était pas toute la Grèce, c'était Athènes essentiellement.
Oui, la démocratie s'est développée particulièrement à Athènes. Il faut savoir que à cette époque-là, la Grèce n'était pas un État avec un gouvernement centralisé, mais un territoire très vaste qui comprenait la Grèce actuelle, le Péloponnèse, la Crète, toutes les îles, mais aussi et surtout toutes les cités d'Asie mineure. Et la démocratie,
l'actuelle Turquie.
Oui. Et il y avait également des cités grecques en Sicile, en Italie du Sud et sur les rives de la mer Noire. La particularité était que tout a commencé aux alentours de l'année 800, où une structure très particulière s'est mise en place, qui est la structure de la cité-État. C'est-à-dire que un petit peu partout, les Grecs ont mis en place des cités, avec chacune leur gouvernement. Ces cités étaient toutes indépendantes les unes par rapport aux autres et ont développé leur propre style de gouvernement. Athènes est arrivée à la démocratie. Certaines cités ne sont jamais arrivées à la démocratie, mis en place un autre type de gouvernement.
La plupart des cités, même Athènes, d'ailleurs on vient de l'entendre dans cet extrait de Péplum, ont eu des régime tyrannique. À Athènes, c'est à la fin du 6e siècle, il y a eu ce qu'on appelait les Pisistratides, Pisistrate et ses enfants, Hipparque et Hippias, le dernier tyran. Mais alors, si j'étais étonné en vous lisant, de faire savoir que le mot tyran n'avait pas la connotation péjorative qu'il a aujourd'hui.
Non, pas du tout. Tyran, ça voulait simplement dire celui qui gouverne seul. Mais le tyran pouvait être mis au pouvoir par la volonté de l'ensemble des citoyens et pouvait en être aussi chassé par la volonté des citoyens. Et tyrannie ne voulait pas dire forcément oppression. Au contraire, par exemple, sous Pisistrate, aussi curieux que cela puisse paraître, les avancées, les premiers prémices de la démocratie se sont mis en place sous Pisistrate, qui était un tyran.
Il s'appuyait même sur le peuple, très souvent. C'était, on dirait aujourd'hui, peut-être des régimes populistes. Par exemple, Ils ont beaucoup travaillé au partage des terres. Et ils étaient, leurs pires adversaires, c'était ceux qui ont longtemps gouverné Athènes, ce qu'on appelait les eupatrides, c'est-à-dire, en fait, la classe des grands propriétaires terriens, Hélène Montard.
Oui, parce que, il y avait un système très particulier. Les terres appartenaient effectivement à quelques familles. Et le système d'héritage était conçu de façon à ce que les terres restent toujours à un seul propriétaire. Ce qui fait que petit à petit, tous les petits propriétaires qui ne appartenaient pas à ces grandes familles étaient dépossédés, pouvaient même finir à être esclaves simplement pour rembourser leurs dettes. Donc petit à petit, un certain nombre de réformes ont été mises en place pour changer ce mode de répartition et permettre aux citoyens de rester propriétaires de leurs terres et d'exercer la culture tout comme les grandes familles.
Alors ces tyrans, comme vous le disiez, gouvernaient seuls, c'était pas la démocratie. La démocratie va apparaître avec un homme qu'on connaît peu d'ailleurs, qui est Clisthène. C'est après la chute d'Hippias. C'est Clisthène qui devient, je crois, c'était un archonte, c'était en tout cas quelqu'un chargé de diriger Athènes et qui met en place la démocratie, mais alors une démocratie fragile qui, comme d'ailleurs toutes les autres cités grecques, doit faire face aux ambitions d'un immense empire, l'empire perse.
Melciade, j'ai été envoyé pour t'avertir que les forces persanes ont débarqué dans la plaine de Marathon. Tu dois sans retard regagner Athènes. Ce n'est pas la première fois que notre territoire subit une agression de nos ennemis. Et ce n'est pas non plus la première fois que notre cité, nos lois et nous-mêmes courons le risque d'être dangereusement menacés.
Oui, mais la menace qui pèse sur nos têtes s'amplifie de jour en jour. Les Perses ne sont qu'à 100 stades de nos murs.
Sans aide, nous ne réussirons certainement pas à repousser Darius et ses hommes.
Nous remettrons des armes aux vieillards, aux adolescents. Ne combattront-ils pas tous pour un idéal commun? Et s'il est impossible de vivre libre, mieux vaut mourir en combattant.
C'était l'extrait d'un péplum, la bataille de Marathon, assez fidèle à la réalité, Hélène Montard, le début en 490 de la première des deux guerres médiques. Pourquoi les appelle-t-on les guerres médiques? Elles sont contre la Perse.
Alors là, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut revenir au VIe siècle, et au VIe siècle, les cités grecques d'Asie mineure sont très florissantes. Milet, Éphèse sont beaucoup plus importantes qu'Athènes, Sparte et Corinthe, et un grand courant scientifique et philosophique se développe aussi dans ces villes. Par contre, ces villes ont un petit handicap, ce sont des cités grecques indépendantes, mais elles sont néanmoins sous protectorat d'un petit royaume voisin, la Lydie, qui est gouvernée par le fameux roi Crésus. Et tout se passe très bien parce que Crésus est quelqu'un qui apprécie beaucoup la culture grecque, et donc tout va pour le mieux. Mais ça ne dure pas longtemps parce que un autre royaume situé un petit peu plus à l'est, la Médie, est en train de se développer de façon tellement prodigieuse qu'il deviendra l'Empire perse.
Et
la Médie, voilà, les habitants de la Médie sont les Mèdes. Et cet empire, bien sûr, la Médie va attaquer la Lydie, battre le malheureux roi Crésus, et les cités grecques vont passer sous le protectorat des Mèdes, des Perses, ce qui est beaucoup moins intéressant pour eux.
Oui, parce que bon, et alors c'est le roi, c'est d'abord Darius hein, qui va justement entreprendre une grande expédition contre Athènes, parce que évidemment ces cités font appel à leurs cousines, si je puis dire, à leurs voisines grecques du continent européen. Et puis pour liquider ce qui à ses yeux le gêne, Darius lance une grande expédition donc en Grèce continentale, en Grèce d'Europe, et il arrive à Marathon. Alors là, c'est l'épisode de la bataille de Marathon remportée par Bilciade, avec l'épisode de Philippides hein, qui sera le premier marathonien puisqu'il va apporter la nouvelle de la victoire grecque aux Athéniens à 40 kilomètres de là. C'était vraiment une grande bataille, mais avec des forces disproportionnées. On se demande même comment est-ce que les Grecs et les Athéniens notamment ont pu résister à cette
invasion
perse.
C'est un concours de circonstances tout à fait particulier. Les Perses viennent là en vainqueurs parce que l'Empire perse c'est gigantesque, ils ont des forces énormes. Les Grecs sont très peu nombreux, ils ne s'entendent pas entre eux. Quand Athènes va apprendre l'arrivée des Perses, Athènes envoie tout de suite un messager à Sparte pour demander l'aide de Sparte. Et il se trouve que Sparte, en ce moment, ils sont en train de célébrer des fêtes religieuses.
Je rappelle qu'il y avait même des Grecs du côté des Perses.
Ah oui, bien sûr.
Le tyran d'Athènes, il était du côté de Darius, des Perses.
C'est même lui qui a indiqué le site de Marathon, qui est un excellent site pour débarquer une armée. Donc, effectivement, c'est Hippias qui a indiqué ce site. Donc, Sparte répond que oui, ils viendront aider, mais plus tard, quand ils auront fini leur fête. Et Athènes, il y a à ce moment-là un groupe de stratèges extrêmement déterminés qui décident de lutter tout de suite. Ils font appel à une petite ville qui s'appelle Platée, qui se trouve au nord d'Athènes, qui va aussi envoyer des hommes. Et juste quelques heures après le débarquement des Perses à Marathon, il y a déjà 10 000 Grecs qui sont prêts à combattre.
Alors, la victoire de Marathon, c'est évidemment une victoire des Grecs, mais notamment des Athéniens. Ils vont, Darius s'en va finalement, hein, déçu, dépité, souviens-toi des Athéniens, il dit ça à tout le monde. Et c'est son fils en fait qui va se souvenir des Athéniens, Xerxès, qui 10 ans après la bataille de Marathon, la première guerre médique, lance une nouvelle expédition considérable. Hérodote parle de 1 800 000 hommes, il exagère peut-être un peu parce que c'est ça
oui, le premier,
hein, c'est le premier historien de l'histoire, mais il n'est pas très très fiable. Et là, cette fois-ci, c'est une autre bataille qui va se mener contre les Grecs, pas toutes les cités, parce que l'armée de Xerxès, le fils de Darius, est tellement impressionnante que la plupart des villes grecques s'inclinent, beaucoup d'entre elles s'inclinent. Xerxès n'a en face de lui que la flotte athénienne et les fantassins spartiates, et si bien que finalement, c'est après que beaucoup de cités se soient inclinées que Xerxès et son armée immense arrivent dans un lieu des plus célèbres de l'histoire. On écoute un extrait d'un excellent documentaire de Richard Betzer pour la BBC, Les Spartiates.
À la fin du mois d'août de l'an 480 avant Jésus-Christ, Xerxès arrive aux Thermopyles sans qu'une épée ne se soit levée contre lui. Maintenant, les milliers de feux de camp des Perses couvrent les plaines au nord des positions de Léonidas. Les deux armées ne sont séparées que par l'étroit défilé des Thermopyles. Léonidas et ses hommes bloquent le passage en rang serré et en formation de phalange, les lances hérissées au-dessus des boucliers qui se chevauchent.
Et le roi de Sparte, Léonidas, donc, va mourir aux Thermopyles avec ses 300 Spartiates. Ça aussi, c'était une des grandes batailles. On est 10 ans après Marathon, on est en 480 avant Jésus-Christ. Autre grande bataille, la plus grande bataille de la deuxième guerre médique, Hélène Montardre.
Oui, alors les Thermopyles, c'était le verrou qui bloquait la route provenant du nord et qui allait sur Athènes. Une fois le verrou sauté, l'armée perse va s'engouffrer et absolument plus rien ne peut les arrêter. Les Grecs ne sont pas assez nombreux, ils ne s'entendent pas trop entre eux non plus. Heureusement, Thémistocle, l'un des stratèges d'Athènes, a fait évacuer la population d'Athènes. Il a été consulter l'oracle à Delphes qui lui a dit de se réfugier derrière un rempart de bois. Donc tout le monde s'était interrogé pour savoir ce qu'était le rempart de bois. Et Thémistocle a dit le rempart de bois, c'est la flotte. Les trières de guerre grecques qui étaient construites en bois. Et il a dit, il faut aller combattre sur la mer. Il fait évacuer toute la population d'Athènes sur l'île de Salamine, voisine. Et quand les Perses arrivent à Athènes, la ville est vide. Ils vont tout détruire, ils vont saccager, piller les temples, envoyer en esclavage les quelques irréductibles qui sont restés. Et la vraie bataille décisive va avoir lieu sur la mer, c'est la bataille de Salamine.
Et la défaite des Perses. Alors les Perses restent encore, je crois, un an, parce que là, oui. Il y a une bataille, ça c'est Salamine, c'est sur mer.
Voilà.
Il y aura une autre bataille.
Il y aura la bataille de Platée.
Terre, de Platée en 479.
Mais disons, ils vont laisser un petit contingent sur place à Platée, et il y aura une grande bataille là où tous les Grecs, pour le coup, vont être réunis, et ce sera la victoire définitive des Grecs.
Et qui sont définitivement, le danger perse est définitivement écarté. C'est la fin de la deuxième guerre médique et le début pour Athènes, qui a été finalement la cité qui a véritablement remporté la victoire, en tout cas qui a joué le plus grand rôle dans ces guerres médiques. C'est Athènes qui va en bénéficier, d'abord en se constituant un véritable empire d'une certaine manière, en formant contre un éventuel danger des Perses, ce qu'on appelait la Ligue de Délos, Hélène Montardre.
Oui, alors effectivement, c'est Athènes qui va remporter la plupart des lauriers. C'est vrai qu'il y a d'autres cités qui ont participé, bien entendu.
Sacrifice des Spartiates, hein, par exemple.
Oui, et puis toutes les cités, Érythrée a été rasée, toute la population a été envoyée en esclavage, Platée a fourni des soldats, Thèbes également. Mais c'est vraiment Athènes pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a un gouvernement qui s'est mis en place à Athènes, qui est un gouvernement que l'on peut appeler, c'est une démocratie, et c'est assez important parce que tout le monde a pris conscience que il fallait défendre quelque chose qui était une idée de citoyen. Les Perses ont perdu par des concours de circonstances diverses, mais aussi parce que les Perses qui combattaient là n'avaient pas cette idée de citoyenneté. Ils étaient les sujets d'un immense empire. Les Grecs, ils défendent la liberté, ils défendent leur liberté, ce sont des citoyens.
Oui, mais enfin, la liste d'Athéniens, parce que la liste de Délos est assez contraignante. Hein. Je rappelle que c'est une île des Cyclades, dans laquelle toutes les cités qui s'allient avec Athènes, en réalité, doivent verser un tribut pour pouvoir entretenir la flotte athénienne, qui était finalement la grande force des Grecs, et ben finalement, des tas de cités se trouvent que cet empire est un peu difficile à supporter.
Alors, c'est vrai que Athènes va un peu profiter des lauriers tirés de la victoire pour imposer un peu son autorité. Mais Athènes a quand même une force derrière elle, c'est la flotte de guerre. C'est la seule cité qui est capable d'aligner autant de trières de guerre et d'assurer la protection des marchands en Méditerranée. Donc, un équilibre va se mettre en place, c'est-à-dire les cités grecques vont rallier la Ligue de Délos pour bénéficier de ses protections. En échange, elles vont verser des tribus. Et à un moment, le trésor de la Ligue de Délos ne sera plus à Délos, mais sera rapatrié à Athènes sur l'Acropole. Les autres cités vont commencer à trouver qu'Athènes prend un peu trop d'importance.
Alors là, on est au milieu du 5e siècle. Arrive un peu plus tard Périclès, qui va gouverner Athènes, qui a donné son nom à ce qu'on appelle le siècle de Périclès, alors qu'en réalité, je crois qu'il n'a gouverné qu'une quinzaine d'années à peine.
Oui, il a participé, il a été élu effectivement 15 années de suite, mais il commence sa carrière beaucoup plus tôt. Hein. Il va participer à la vie politique d'Athènes pendant plus de 30 ans. Périclès, c'est un homme d'exception, mais c'est surtout quelqu'un qui arrive au bon moment. C'est-à-dire, il arrive au moment où les Grecs ont vaincu les Perses et où les Athéniens jouissent d'une notoriété très forte. Il arrive à un moment où Athènes est une ville riche, parce que des mines de plomb, des filons de plomb argentifère ont été découverts pas loin, sur l'Attique, donc sur le territoire d'Athènes, ce qui permet de financer énormément de choses. Et il arrive à un moment où les institutions de la démocratie sont en place. Et il va pouvoir faire fonctionner ces institutions et donner tout son rayonnement à Athènes.
Au fond, il développe la démocratie, elle existait déjà, elle avait commencé déjà à apparaître, vous l'avez dit, oui. Avec Clisthène, avec Solon aussi au siècle précédent. Mais là, il va la consolider. Par exemple, il va étendre pour tous les citoyens, il va donner à tous les citoyens la possibilité de pouvoir exercer le pouvoir, parce qu'au fond, c'était un moment pendant lequel il ne gagnait plus d'argent. C'est lui qui invente, au fond, la rémunération, je crois, des magistrats, des fonctionnaires publics.
Oui, puisque...
Comment ça s'appelait? C'est un drôle de nom. Ça s'appelle
la mistrophorie.
La mistrophorie.
Alors, effectivement, la démocratie athénienne permet à chaque citoyen de participer réellement à la vie politique. Ceci dit, avec les contraintes que cela implique, c'est-à-dire, pendant qu'on participe à la vie politique, on ne fait pas autre chose. Donc, pour que les citoyens puissent exercer leur rôle de citoyen dans la vie politique, il met en place ce système de rémunération, c'est-à-dire que tout citoyen qui va participer sera rémunéré pour le faire, ce qui est effectivement une innovation extrêmement moderne. Alors, la notion de citoyen, il faut peut-être la préciser.
Oui, parce que la démocratie, c'est bien gentil, c'est le pouvoir du... Démos, le peuple, mais alors c'était pas le pouvoir de toute la population.
Hein. Non.
C'était le pouvoir des citoyens, et les citoyens, je crois que c'était à peine le dixième de la population de l'Attique. Hein. L'Attique, c'est la région autour d'Athènes.
Oui, alors il faut déjà retirer toutes les femmes.
C'est déjà pas mal.
Qui sont citoyennes, mais qui n'exercent pas les droits du citoyen. Il faut également retirer tous les esclaves, dont le nombre est assez important, mais mal connu. Il varie selon les historiens et les sources. Et il faut aussi retirer ce que l'on appelle les métèques, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas athéniens. Les étrangers libres, qui jouissent d'un statut très intéressant à Athènes. Ils peuvent exercer une profession, avoir un travail, etc. Ils ont des devoirs, mais ils ne sont pas citoyens. Donc, il reste les Athéniens, hommes, de sexe masculin, libre. Et ce sont eux qui vont exercer la démocratie.
Alors justement, la démocratie, bon, tout le monde sait que Athènes, c'était la démocratie, etc. Cela dit, très peu gens savent comment elle fonctionnait, quelles étaient ces institutions. On le voit dans votre livre, Hélène Montage, j'aimerais bien que vous nous rappeliez comment s'exerçait le pouvoir. D'abord, il y avait une assemblée du peuple, de tout le peuple, hein, de tous les citoyens. Hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'ecclésia. Au fond, c'était l'assemblée de base. Et tout le monde se réunissait pour voter les lois. C'est ça, l'ecclésia.
Oui, c'est ça. L'ecclésia effectivement, rassemble tous les citoyens. Et l'Ecclésia se rassemble souvent sur un lieu qui s'appelle l'Apnix. En grec, ça veut dire l'endroit où l'on se tient serré. Alors, on comprend pourquoi, parce qu'ils étaient nombreux, ils se tenaient là. Et elle se rassemble environ, à des dates précises, environ 40 fois par an. Et c'est effectivement l'Ecclésia qui va décider d'un certain nombre de choses. De voter telle ou telle loi, de prendre telle et telle décision.
La paix ou la guerre.
Mais bien sûr, il y a des choses qui sont discutées et mises en forme par d'autres instances. Mais au bout du compte, c'est quand même l'Ecclésia qui tranche. Alors les autres instances, il y a d'abord ce que l'on appelle l'Élié. L'Élié, c'est le tribunal. C'est le tribunal de l'Élié qui s'occupe...
Le peuple, là encore. Hein.
Oui, parce que toutes les instances, c'est un système assez complexe. Les citoyens qui font partie de l'Élié, de la Boulée, etc.
Mais la Boulée, on en parlera. La Boulée, c'est une assemblée plus petite que l'Ecclésia. C'est-à-dire que voilà. Quand l'Ecclésia n'était pas réunie, et pour tous les problèmes mineurs, c'était la Boulée, qu'on appelle le Conseil des 500 aussi, qui prenait les décisions moins importantes ou qui préparait travail de l'Ecclésia.
La Boulée prépare le travail de l'Ecclésia. Elle rédige les lois, prépare le travail et ensuite met en œuvre et assure toute la surveillance. Mais tous les citoyens qui font partie de ces différents conseils sont élus et tirés au sort. C'est-à-dire que le système est fait de telle façon que la prise du pouvoir... Ils sont d'abord élus, il y a un certain nombre de personnes élues, et parmi ces personnes qui ont été élues, il y a un tirage au sort qui est effectué. Ce qui fait que ça évite toute possibilité à une personne de prendre le pouvoir, et ça évite aussi toute tricherie.
Alors ça c'est un peu, les assemblées que vous avez citées, c'est l'Ecclésia, la Boulée, c'est un peu au fond une espèce de grand parlement. L'Ecclésia, c'est même carrément le référendum, puisque c'est tous les citoyens en principe. La Boulée, c'est une espèce de parlement. L'Élié aussi, c'est l'instance judiciaire. Le pouvoir exécutif qui exerçait, par exemple, Périclès, sa fonction réelle, pendant 15 ans, c'était stratège. Alors, stratège, c'est pas seulement un militaire, si j'ai bien compris.
Non, les stratèges sont souvent des militaires, mais pas seulement. Les stratèges sont élus. Ils sont élus pour une durée de 1 an. Et ils peuvent être élus... Périclès sera réélu 15 années de suite. Et le pouvoir exécutif, dirons-nous, est effectivement dans les mains des stratèges. Mais il y a toujours plusieurs stratèges. Mmh. Et ces stratèges sont élus et peuvent être chassés la volonté du peuple.
Et Périclès, lui, il est très populaire, on l'a réélu pendant une quinzaine d'années d'affilée. Enfin, il ne voulait pas qu'on le soupçonne d'être tyran, alors il vivait très simplement.
Oui, Périclès est une figure, c'était quelqu'un qui plaisait énormément, qui savait bien parler, qui savait faire passer ses idées, qui était très admiré, qui a fait énormément de choses pour Athènes. C'était quelqu'un d'une grande culture, qui savait agir à la fois sur le plan défensif. C'est lui qui a Il a fait construire des doubles murs qui reliaient Athènes au Pirée pour protéger la ville des envahisseurs. Et puis, il a mis en place tout un programme de construction étonnant. Et c'est l'Athènes telle qu'on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire, les monuments qui couvrent l'acropole datent de cette époque-là.
Oui, parce que quand on pense au siècle de Périclès, on pense à la démocratie, mais on pense aussi, effectivement, à toute la splendeur, le rayonnement d'Athènes, sur le plan aussi philosophique, artistique. C'est incroyable, je l'ai cité au début de l'émission, le nombre de grands philosophes, d'auteurs de théâtre, de tragédie, le premier historien qui était Hérodote, des savants, tout ça regroupé au même moment, dans le même lieu qu'était Athènes. C'est assez invraisemblable ce rayonnement d'Athènes.
C'est
l'âge d'or d'Athènes, Périclès.
Athènes, à ce moment-là, Athènes a mis en place tout ce qu'il fallait pour que tout cela puisse s'exprimer. C'est-à-dire, cette notion de citoyen est très importante. Elle a permis le développement justement de la pensée philosophique, le début de la science. C'est une époque où on peut s'interroger sur tout et tout remettre en question. Parce que chaque citoyen se sent libre de le faire et a la possibilité de le faire. Athènes, c'est une cité où on est très libre. Et les étrangers, les métèques, ils sont très bien reçus. Les esclaves, ils sont bien traités. C'est vraiment,
vraiment interdit de les battre.
Oui, par exemple, les esclaves qui appartiennent au gouvernement ou qui travaillent dans l'industrie sont rémunérés et habitent chez eux. Donc c'est vrai que c'est un ensemble très particulier. Toutes les conditions sont faites pour que sur le plan culturel, il y ait des tas de choses qui se développent. Et donc Périclès va mettre en place un grand programme de construction sur l'Acropole. Le Parthénon va être construit, les Propylées,
un certain nombre. Enfin, Phidias, c'est la statue, mais il dirigeait
Phidias
les travaux,
aussi, il dirigeait toutes. Ouais. Oui, c'était l'architecte en chef. Il dirigeait tous les travaux de l'Acropole. Et la pensée philosophique va également se développer à ce moment-là. Et quand on regarde un petit peu les sculptures du Parthénon, justement, on s'en aperçoit, les frontons se représentent effectivement les dieux, mais la fameuse frise des Panathénées qui orne l'extérieur des murs de la cella, qui est l'endroit le plus sacré, représente les hommes, représente les Athéniens, en fait.
Tout ça s'est fait, Hélène Montard, en très peu de temps, et en même temps, ça a été très éphémère, parce que ça va disparaître avec ces autres guerres qui achèvent le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les guerres du Péloponnèse.
Oui, alors...
C'est-à-dire la lutte contre Sparte, en fait.
Oui, malheureusement, ces cités grecques ont un gros défaut, c'est que tant qu'il n'y a pas d'ennemis extérieurs puissants contre qui se liguer, elles se disputent entre elles. Et elles ne s'entendent jamais, pour des raisons diverses et variées. Et les guerres du Péloponnèse vont effectivement mettre fin à la splendeur d'Athènes. Elles vont durer plusieurs décennies et Athènes sera obligée de s'incliner devant Sparte au bout du compte.
Mais ça ne va pas empêcher la démocratie, l'art, etc. d'être transmis jusqu'à nous. Hélène Montardre, merci en tout cas de nous avoir rappelé ce siècle qui a été le siècle de Périclès et que l'on retrouve entre autres dans votre livre La Grèce ancienne, publié chez Milan Jeunesse dans la collection Les Encyclopes. Alors c'est un livre pour les jeunes, mais vraiment, c'est un livre qu'on peut lire de 7 à 77 ans. Moi, j'ai redécouvert des tas de choses que j'avais oubliées depuis mes études. Vous êtes également l'auteur de L'Empire romain, publié chez Milan aussi, mais dans la collection Les Essentiels Junior. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La bataille de Marathon de Jacques Tourneur, ainsi qu'un extrait du documentaire Les Spartiates, réalisé par Richard Betzer pour la BBC. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Éric Gérard et Olivier Riotor, documentation Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, une réalisation de Anne Comilac.